France Musique. Musicopolis. Ravel et les sortilèges. Entre une publicité pour la somptueuse revue Bonjour Paris, dans laquelle triomphent Miss Dinguette et Rému au Casino de Paris, et une réclame pour les dernières séances de la revue Vive la femme avec Maurice Chevalier avant son départ pour l'Amérique, le journal du 29 mars 1925 informe ses lecteurs de ce qui se passe à Monte-Carlo. Je cite « La plus délicieuse fantaisie a présidé à la composition et à la création de L'enfant et les sortilèges », conte lyrique en deux actes, poème de Madame Colette, musique de Maurice Ravel, qui vient de remporter à l'Opéra de Monte-Carlo un succès triomphal. Le poème délicat et émouvant de Colette devait inspirer le souple et original talent de Ravel, dont la partition est un chef-d'œuvre de grâce, de bouffonnerie et de sentiment. Le directeur du théâtre de Monte-Carlo, M. Raoul Gainsbourg, a réalisé pour ce conte lyrique une mise en scène merveilleuse, avec l'interprétation parfaite de ses chanteurs et du corps de ballet russe. Le jeune maître Victor de Sabata dirigeait avec autorité l'exécution chorale et orchestrale. Comme le dit Le Siècle, quelques jours avant la première de L'Enfant et les Sortilèges, Ravel est à l'heure présente le plus grand musicien français. La création d'une nouvelle œuvre de lui ne manque donc pas de susciter l'attention. Les journaux en préviennent leurs lecteurs depuis plusieurs jours et certains ont même présenté en avant-première des interviews du compositeur pour que nous sachions tout de cette affaire.
J'ai pas envie de faire ma page, j'ai envie. J'ai envie de tirer la queue du chat et de couper celle de l'écureuil. J'ai envie de gronder tout le monde. J'ai envie de mettre maman en pénitence.
C'est dans Le Siècle, du 21 mars 1925, quelques jours avant la première, que nous trouvons des détails sur les origines de l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui. Colette, depuis longtemps, nous raconte André Queroy, rêvait d'écrire pour sa fille un argument féerique. Comment l'intitulerons-nous ? Le plus simplement du monde, pour ma fille. Mais je n'ai pas de fille, dit Ravel. Pas de fille ? Mais c'est vrai, dit Colette. Alors mettons pour une enfant, ou peut-être l'enfant. On hésitait. Finalement, l'œuvre vient d'être éditée chez Durand sous le titre de « L'enfant et les sortilèges », qui résume exactement la fable de cette fantaisie lyrique en deux tableaux.
Le bébé a eu du songe, il a fini sa page. Oh, tu n'as rien fait, tu as éclaboussé d'encre le tapis. Regrettes-tu ta paresse? Promettez-moi, bébé, de travailler.
Voulez-vous me demander pardon?
Oh!
t'es d'un méchant enfant, de tes sens secs, mais du pain sec. Restez tout seul jusqu'au dîner et songez à votre faute et songez à vos devoirs. Songez sur tout au chagrin de maman.
Dans La chambre éclairée, un texte publié en 1921, Colette parle de sa fille, surnommée Belle-Gazou. « Pendant une demi-heure, écrit-elle, Belle-Gazou a le droit de ne pas s'endormir. Et seule dans sa chambre noire, sans veilleuse, elle jette son chant impérieux de rossignol d'ombre. La voix est éclatante, l'accent se fait caressant ou despotique. Entre les mots, entre les chansons, il y a les rires. Oh, cascade d'argent sur des graviers blancs, oh, fusée ascendante que l'instant de retombée allume, gamme dont la note la plus aiguë est comme un brandon, paillette, bluette d'un cristal à mille feux. Il y a derrière la porte, dans cette chambre noire, mon dernier trésor de lumière, la voix, les rires de Belle-Gazou. » Voici une des scènes d'exposition les plus rapides de l'histoire de l'opéra. L'enfant n'a pas envie de faire ses devoirs, il est privé de goûter par sa mère, il saccage tout dans un accès de colère fulgurant. À présent, les objets saccagés par l'enfant vont se réveiller, se plaindre, se révolter.
Votre serviteur, humble bergère.
Votre servante, Fontaine.
Dans une interview au journal Le Gaulois, Ravel s'explique sur sa nouvelle œuvre. La partition de l'enfant et les sortilèges, dit-il, est un mélange très fondu de tous les styles, de toutes les époques, de Bach jusqu'à Ravel. Cela va de l'opéra à l'opérette américaine, en passant par le jazz band. Il ajoute : selon les principes de l'opérette américaine, la danse est continuellement et intimement mêlée à l'action. Voilà qui nous en dit beaucoup sur la construction de l'ouvrage, dont on pourrait voir la première partie comme une suite de danses, plus ou moins orthodoxe, comme par exemple pour le fauteuil et la bergère, un tango, mais à trois temps.
Sur la terre nue. Et encore, qui sait ?
Et encore, qui sait ?
Plus de l'enfant.
Et encore ding, je ne peux plus m'arrêter de sonner, je ne sais plus l'heure qu'il est, il m'a ôté mon balancier, j'ai d'affreuses douleurs de ventre, j'ai un courant d'air dans mon centre, et je commence à divaguer.
Dès 1919, Ravel a en sa possession le livret que Colette a écrit à la demande de Jacques Rouchet, directeur de l'opéra. Ravel écrit à Colette au sujet de quelques points de détail. Par exemple, que penseriez-vous de la tasse et de la théière en vieux Wedgwood noir chantant un ragtime ? J'avoue que l'idée me transporte de faire chanter un ragtime par deux nègres à l'Académie nationale de musique. Notez que la forme, un seul couplet avec refrain, s'adapte parfaitement au mouvement de cette scène. Plainte, récrimination, fureur, poursuite. peut-être m'objecterez-vous que vous ne pratiquez pas l'argot nègre américain. Moi, qui ne connais pas un mot d'anglais, je ferai comme vous. Je me débrouillerai. Je vous serai reconnaissant de me donner votre opinion sur ces deux points et de croire, chère madame, à la vive sympathie artistique de votre dévoué Maurice Ravel.
Black and costaud, black and chic, black, 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 jolly fellow, black. I punch her, I punch her, I punch, I knock out you soon, bitches, black, black, and thick, and frambois, and frambois. I bought you, my marmalade.
Ravel a composé un foxtrot chanté par la théière en Wedgwood qui se combinera ensuite à la musique pseudo-chinoise de la tasse. Puisqu'en effet, le compositeur est très au fait des musiques nouvelles et des danses de société à la mode. Lui-même sort avec plaisir et quoi qu'il soit installé dans sa petite maison de Montfort-l'Amaurie, il vient souvent à Paris où il passe volontiers la soirée dans les boîtes comme Le Bœuf sur le Toit ou Le Grand Écart. Pour le personnage du feu, il écrit un grand air à vocalise à l'italienne sur un rythme de two-step. Personnage de sa fantaisie lyrique, Ravel a imaginé un costume et un décor sonore particuliers. Par exemple, les pastourelles et pastoureaux de la tapisserie que l'enfant a lacérés dans sa crise de colère seront comme des santons de Provence, accompagnés de galoubets et de tambourins stylisés, un peu raides et penchés. Si la construction générale de sa fantaisie lyrique est celle d'une opérette américaine, comme il se plaît à le dire, Ravel a néanmoins cédé aussi à la tentation du sortilège. Lorsque le personnage le demande, il le nimbe d'une musique tout à fait magique, qui nous fait entrer plus profondément dans le monde de son enfance. La princesse de conte de fées, dont l'enfant a lu l'histoire, lui apparaît dans la plus grande simplicité, accompagnée d'abord d'une seule flûte, avec un caractère ancien, un peu archaïque. Mais dès qu'elle évoque les aventures inscrites dans le livre déchiré, alors le compositeur sort sa baguette magique, il nous fait apparaître chaque petit détail du tableau.
C'était le déchiré libre.
les aventures de l'enfant et ses déconvenues ne sont pas terminées. Puisqu'une fois que la princesse aura disparu, ce sont d'autres personnages de livres qui vont s'animer. L'arithmétique sous forme d'un vieux bonhomme agité et ses chiffres. Pas de danse ici, mais une comptine qui, comme souvent les comptines, est un peu bancale. À la fin du premier tableau de l'enfant et les sortilèges, Ravel revient à la danse, toujours passé à la moulinette de sa fantaisie. Cette fois-ci, une valse, mais à 5 temps, qui soutiendra le duo des chats, un duo miaulé, pour lequel Ravel, très soucieux de ne pas trahir le texte de l'auteur, a demandé à Colette la permission de transformer quelques miouins en mornaons. Après le duo miaulé, la fantaisie de Colette et Ravel change de ton. On n'est plus dans le décor factice d'une maison et d'un salon vu à hauteur d'enfant, mais dans un jardin, symbole du monde extérieur, un monde à la fois naturel et magique, plein de mystères. Fable de la destruction de la nature et de la catastrophe écologique avant l'heure, le deuxième tableau de l'enfant et les sortilèges, dans le jardin, après un début apaisé, va recenser tous les méfaits commis par l'enfant, qui a blessé les arbres, capturé des libellules pour les piquer d'une épingle, tué une chauve-souris, enfermé des grenouilles ou des écureuils. Entendu de cette manière, ce deuxième tableau peut véritablement faire peur. Le tableau du jardin de l'enfant et les sortilèges est soutenu par une valse américaine, valse lente, qui s'interrompt pour des dialogues avec les divers animaux auxquels l'enfant a fait du mal. Des dialogues assez sombres, tout bien considérés, mais toujours dans un décor sonore de magie très élaboré. Le sommet du tableau du jardin de l'enfant et les sortilèges est peut-être la grande phrase de l'écureuil. Ravel avait demandé à Colette une extension de son texte. Le récit de l'écureuil ne pourrait-il se développer ? Lui écrit-il. Imaginez tout ce que peut dire de la forêt un écureuil et ce que ça peut donner en musique. Mais finalement, ce n'est pas tant de la forêt que parle l'écureuil, mais de la liberté qu'elle lui apporte, à lui et à tous ses congénères. Encore une préoccupation écologique et sociale qui n'est certainement étrangère ni à Colette ni à Ravel. L'enfant et les sortilèges n'a pas été perçu comme une fable sur la catastrophe écologique lors de la création au mois de mars 1925. C'était un peu tôt. Mais quoi qu'il en soit, l'ouvrage de Ravel et Colette a, bien évidemment, reçu un accueil très chaleureux. Les commentaires soulignaient alors la fantaisie, la variété, l'intérêt sans cesse renouvelé, etc., etc. Mais je laisse la parole à Colette pour le mot de la fin. La partition de l'enfant et les sortilèges est maintenant célèbre. Comment dire mon émotion première, au premier bondissement des tambourins qui accompagnent le cortège des pastoureaux, l'éclat lunaire du jardin, le vol des libellules et des chauves-souris. N'est-ce pas, c'est amusant, disait Ravel. Cependant, un nœud de larmes me serrait la gorge. Les bêtes, avec un chuchotement pressé, syllabées à peine, se penchaient sur l'enfant, réconciliés. Le cœur final de l'enfant et les sortilèges de Maurice Ravel et Colette, Françoise Augéas, l'enfant, le chœur et l'orchestre national de la RTF, dirigé par Laurine Mazel. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches et le site, Cédric Châtelus pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.